Ils retournèrent sur leurs pas, marchèrent grand train vers l'église, traversèrent la place où, par bonheur, il n'y avait encore personne, entrèrent dans un petit chemin qui se trouvait entre l'église et la maison de Don Abondio, puis, à la première trouée qu'ils trouvèrent dans une haie, ils passèrent par là et cheminèrent à travers champs. Ils n'étaient peut-être pas encore à 50 pas lorsque les gens du village commencèrent à arriver en courant sur la place et le nombre en augmentait à chaque instant. Ils se regardaient les uns les autres. Chacun avait une question à faire. Personne une réponse à donner. Les premiers arrivés coururent à la porte de l'église. Elle était fermée. Ils coururent au clocher par dehors et l'un d'eux, mettant la bouche à une petite fenêtre, à une espèce de barbacane, cria dedans « Que diable y a-t-il donc ?» Quand Ambrogio entendit une voix connue, il laissa aller la corde. Et certain, par le bourdonnement du dehors, que bien du monde était accouru, il répondit « Je vais ouvrir !» Il passa à la hâte le vêtement qu'il avait apporté sous son bras, vint par l'intérieur à la porte de l'église et l'ouvrit. « Qu'est-ce que tout ce vacarme? Qui a-t-il donc? Où est-il? Qui est-ce? » « Comment, qui c'est ? » dit Ambrogio, tenant d'une main l'un des battants de la porte et de l'autre le haut de ce certain vêtement qu'il s'était empressé de mettre. « Comment? Vous ne le savez pas? Du monde dans la maison de monsieur le curé! Allons, enfants, du secours !» Tous se tournent vers cette maison, s'en approchent en foule, regardent en haut, prêtent l'oreille. « Tout est tranquille !» D'autres courent du côté de la porte. Elle est fermée, et rien ne marque qu'on y ait touché. Eux aussi regardent en haut. Pas une fenêtre n'est ouverte. On n'entend pas le moindre bruit. « Qui est là-dedans ? Ouais, ouais ! Monsieur le curé ! Monsieur le curé !» Don Abondio, qui, aussitôt après s'être aperçu de la fuite des assaillants, s'était retiré de la fenêtre et l'avait refermée, et qui, dans ce moment, était à se chamailler tout bas avec Perpétua, qui l'avait laissé seul dans un embarras si fâcheux, fut obligé, lorsqu'il s'entendit appeler par la voix du peuple, de revenir à la fenêtre. Et, voyant le secours si grand, il se repentit de l'avoir demandé. « Qu'est-il arrivé? Que vous a-t-on fait? Qui sont ces gens-là? Où sont-ils ? » lui criaient 50 voix ensemble. « Il n'y a plus personne, je vous remercie, vous pouvez retourner chez vous. » « Mais qui était-ce? Où sont-ils allés? Qu'est-ce qui est arrivé ?»« De mauvaises gens, des gens qui rôdent la nuit. Mais ils ont pris la fuite. Retournez chez vous, il n'y a plus rien. Une autre fois, mes enfants, je vous remercie de bon cœur. » Et cela dit, il se retira et ferma la fenêtre. Alors, quelques-uns commencèrent à murmurer, d'autres à se moquer, d'autres à jurer, d'autres plier les épaules et s'en aller, lorsqu'arriva un homme tellement hors d'haleine qu'il avait peine à former ses mots. Celui-ci avait sa demeure presque en face de celle de nos femmes, et, attiré par le bruit à sa fenêtre, il avait vu dans la petite cour tout le mouvement et le désordre des bravi, lorsque le grisot se donnait tant de peine pour les rallier. Quand il eut repris sa respiration, il cria « Que faites-vous ici, bonnes gens? Ce n'est pas ici qu'est le diable, il est là-bas, au bout de la rue, à la maison d'Agnese Mondella. Des gens armés, ils sont dedans, ils ont l'air de vouloir tuer un pèlerin. Qui sait ce que diable ce peut être ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? » Et ici commence une délibération tumultueuse. Il faut aller, il faut voir. Combien sont-ils ? Combien sommes-nous ? Qui sont-ils ? Le consul, le consul ! Me voilà, répond le consul du milieu de la foule, me voilà. Mais il faut m'aider, il faut m'obéir. Vite, où est le sacristain ? À la cloche, à la cloche. « Vite, quelqu'un qui court à l'écho chercher du secours. Venez tous ici. » Qui accourt, qui se glisse entre un homme et l'autre et s'esquive. Le tumulte était grand, lorsqu'en voici encore un qui a vu les brigands partir à la hâte et qui crie. « Courez, braves gens, des voleurs ou des bandits qui se sauvent avec un pèlerin. Ils sont déjà hors du village. Donnons dessus, donnons dessus. » À cet avis, sans attendre les ordres du chef, ils partent en masse et courent pêle-mêle le long de la rue. À mesure que l'armée s'avance, quelques-uns de ceux de l'avant-garde ralentissent le pas, se laissent dépasser et se glissent dans le corps de la bataille. Les derniers poussent en avant. Les seins, tout en confusion, arrive enfin au lieu indiqué. Les traces de l'invasion étaient récentes et manifestes. La porte extérieure tout ouverte, la serrure enfoncée. Mais les auteurs du fait avaient disparu. On entre dans la cour, on va à la porte de la maison. Elle est, comme l'autre, ouverte et forcée. On appelle. « Agnese, Lucia, le pèlerin !»« Où est le pèlerin ?»« Stefano l'aura rêvé, son pèlerin !»« Non, non, Carl Andrea aussi l'a vu !»« Ohé, pèlerin !»« Agnese, Lucia !» Personne ne répond. Ils les ont enlevés. Ils les ont enlevés. Il y en eut alors qui, élevant la voix, proposèrent de suivre les ravisseurs, disant que c'était une infamie, et qu'il y aurait honte pour le pays si tout coquin pouvait impunément venir en emporter les femmes, comme le Milan emporte les petits poulets de dessus une aire déserte. Nouvelle délibération et plus tumultueuse encore. Mais l'un d'eux, et l'on n'a jamais bien su qui c'était, jeta parmi la troupe le bruit qu'Agnese et Lucia s'étaient mises en sûreté dans une maison. Ce bruit courut rapidement, obtint créance. On ne parla plus de donner la chasse aux fugitifs, et la troupe s'éparpilla, chacun retournant à sa demeure. Ce ne fut alors que mélange confus de voix, mouvement bruyant dans tout le village. Des portes où l'on frappait et qui s'ouvraient, des lampes qui paraissaient et disparaissaient, les questions des femmes par la fenêtre, les réponses données de la rue. Puis, lorsque celle-ci redevint déserte et calme, les discours continuèrent à l'intérieur des maisons et moururent dans les bâillements pour recommencer au matin. Il n'y eut cependant point d'autres événements, si ce n'est que ce matin même, le consul étant dans son champ, le menton dans l'une de ses mains, le coude appuyé sur le manche de sa bêche à demi enfoncé en terre et le pied levé sur le fer de l'instrument, ce consul étant, dis-je, à réfléchir sur les mystères de la nuit passée et sur la raison composée de ce qu'il avait charge et de ce qu'il lui convenait de faire, vit venir à lui deux hommes de très robuste apparence, chevelus comme deux rois des Francs de la première race et fort ressemblant d'ailleurs à ces deux individus qui, 5 jours auparavant, s'étaient trouvés sur les pas de Don Abbondio, si ce n'étaient les mêmes. Ces hommes, d'une manière encore moins cérémonieuse, signifièrent au consul qu'il eût à se bien garder de faire aucune déposition au podestat du fait advenu, de dire la vérité s'il était interrogé sur ce fait, d'en causer, d'y faire causer les villageois, le tout en tant qu'il tiendrait à l'espérance de mourir de maladie. Nos pauvres fugitifs marchèrent quelque temps d'un pas rapide en silence, se retournant, tantôt l'un, tantôt l'autre, pour regarder si personne ne les poursuivait. Souffrant tout à la fois par la fatigue de leur fuite, par leur anxiété durant la chanceuse entreprise, par le chagrin de l'avoir manqué, par l'appréhension confuse du nouveau danger qui venait obscurément se présenter. Le sentiment de leur peine était rendu plus pénétrant encore par ce bruit continuel des coups pressés de la cloche qui, s'ils devenaient dans l'éloignement plus faibles et moins distincts, semblaient par cela même prendre je ne sais quoi de plus lugubre et de plus sinistre. Enfin la cloche se tut. Se trouvant alors dans un champ où il n'y avait nulle habitation, n'entendant aucun bruit autour d'eux, ils ralentirent leur marche. Et Agnese fut la première qui, reprenant haleine, rompit le silence pour demander à Renzo comment la chose s'était passée, et à Menico ce que c'était que ce diable dans la maison. Renzo raconta brièvement sa triste histoire, et tous les trois se tournèrent vers l'enfant, qui rapporta plus clairement la vie du père, après quoi il fit le récit de ce qu'il avait vu et risqué lui-même, et où n'était que trop la confirmation de cet avis. Ceux qui l'écoutaient en comprirent plus qu'ils n'avaient su dire. À cette révélation, ils frissonnèrent, s'arrêtèrent tous trois en même temps, échangèrent entre eux un regard d'épouvante. Et aussitôt, d'un mouvement unanime, tous trois mirent la main sur la tête ou sur les épaules du petit garçon, comme pour le caresser, pour le remercier tacitement d'avoir été pour eux un ange tutélaire, pour lui montrer la compassion qu'ils ressentaient de l'alarme qu'il avait éprouvé, du danger qu'il avait couru pour leur salut, et pour lui en demander en quelque sorte pardon. « Maintenant, retourne à ta maison, pour que tes parents ne soient pas plus longtemps en peine sur ton compte, » lui dit Agnese. Et, se rappelant les deux papaliodes promises, elle en prit quatre dans sa poche et les lui donna, ajoutant « Prie le Seigneur que nous nous revoyons bientôt, et alors ?» Renzo lui donna une berlinga neuve et lui recommanda beaucoup de ne point parler de la commission qu'il avait reçue du père. Lucia le caressa de nouveau, lui dit adieu d'une voix affligée. L'enfant attendri les salua tous et s'en retourna. Ils se remirent en marche tout pensifs, les femmes devant, Renzo après elles, comme leur servant d'escorte. Lucia se tenait serrée au bras de sa mère et se dérobait doucement et avec adresse à l'aide que le jeune homme lui offrait dans les pas difficiles de ce voyage hors des chemins frayés. Confuse intérieurement, au milieu même de son trouble, d'avoir été si longtemps seule avec lui et d'une manière si familière, lorsqu'elle s'attendait à devenir sa femme dans peu de moments. Maintenant que ce rêve était si douloureusement évanoui, elle se repentait d'avoir été trop loin, et parmi tant de raisons de trembler, elle tremblait aussi par cette pudeur qui ne naît pas de la triste science du mal, par cette pudeur qui s'ignore elle-même, semblable à la peur de l'enfant qui tremble dans les ténèbres sans savoir pourquoi. « Et la maison ?» dit une fois Agnese. Mais, quelque importante que fût la question, personne n'y répondit, parce que personne n'avait une réponse satisfaisante à y faire. Ils poursuivirent leur chemin en silence, et bientôt enfin ils débouchèrent sur la petite place qui se trouvait devant l'église du couvent. Renzo, se présentant à la porte, la poussa légèrement. Par le fait, la porte s'ouvrit, et la lumière de la lune, passant par cette ouverture, éclaira la figure pâle et la barbe argentée du père Cristoforo, qui était là debout à attendre. Lorsqu'il eut vu qu'il ne manquait personne, « Dieu soit loué, dit-il, et il leur fit signe d'entrer. Un autre capucin était à ses côtés. C'était le frère Lé sacristain, que, par ses raisonnements et ses prières, il avait décidé à veiller avec lui, à laisser la porte seulement poussée et à s'y tenir en sentinelle pour recevoir ses pauvres gens menacés. Et il n'avait rien moins fallu que l'autorité du père et sa réputation de saint pour obtenir du frère un acte de condescendance incommode, dangereuse et contraire à la règle. Lorsqu'ils furent entrés, le père Cristoforo repoussa bien doucement la porte. Alors le sacristain n'y tint plus, et, tirant le père à l'écart, il lui murmura tout bas à l'oreille. « Mais père, père, de nuit, dans l'église, avec des femmes, fermez la règle, mais père !» Et il secouait la tête. Pendant qu'il articulait péniblement ces mots, « Voyez pourtant, se disait le père Cristoforo, si c'était un brigand poursuivi, frère Fazio ne lui ferait pas la moindre difficulté. » Et pour une pauvre innocente qui se sauve des griffes du loup, omnia munda mundis, tout ce qui est pur pour ce qui est pur, dit-il ensuite en se tournant subitement vers le frère Fazio et oubliant que celui-ci n'entendait pas le latin. Mais cet oubli fut précisément ce qui fit effet. Si le père avait entrepris de discuter par des raisons, frère Fazio n'aurait pas manqué d'autres raisons à lui opposer. Et Dieu sait quand et comment le débat aurait pris terme. Mais en entendant ces paroles pleines d'un sens mystérieux et prononcées d'une manière si résolue, il lui sembla qu'elle devait contenir la solution de tous ses doutes. Il se calma et dit « Suffit, vous en savez plus que moi. Soyez tranquille, » répondit le père Cristoforo. Et à la lueur douteuse de la lampe qui brûlait devant l'autel, il s'approcha des réfugiés qui attendaient dans l'incertitude et leur dit « Mes enfants, remerciez le Seigneur qui vous a sauvés d'un grand péril. Peut-être en ce moment... » Et ici il se mit à expliquer ce qu'il leur avait fait dire par le petit messager, car il ne soupçonnait pas qu'ils en sussent plus que lui, et il supposait que Medico les avait trouvés tranquilles dans leur maison avant que les brigands y arrivassent. Personne ne le détrompa, pas même Lucia, qui pourtant éprouvait un certain remords d'une semblable dissimulation envers un tel homme. Mais c'était la nuit des imbroglios et des faux-semblants. Après chose pareille, continua-t-il, vous voyez bien, mes enfants, que ce pays n'est maintenant pas sûr pour vous. C'est le vôtre, vous y êtes nés, vous n'avez fait de mal à personne, mais Dieu le veut ainsi. C'est une épreuve, mes enfants, supportez-la avec patience, avec confiance, sans haine, et soyez sûrs qu'un temps viendra où vous vous trouverez heureux de ce qui vous arrive aujourd'hui. Je me suis occupé de vous procurer un refuge pour ces premiers moments. Bientôt, j'espère, vous pourrez revenir sans risque dans vos demeures. Quoi qu'il en soit, Dieu prendra soin de vous selon votre plus grand avantage. Et moi, bien certainement, je m'efforcerai de reconnaître la grâce qu'il me fait en me choisissant pour son ministre auprès de vous, ces pauvres et chers affligés. Vous, poursuivit-il en se tournant vers les deux femmes, vous pourrez vous arrêter à... Là, vous serez suffisamment écartés du danger et en même temps pas trop loin de chez vous. Demandez en cet endroit notre couvent. Faites appeler le père gardien. Remettez-lui cette lettre. Il sera pour vous un autre père Cristoforo. Et toi aussi, mon cher Renzo, tu dois, pour le moment, te mettre en sûreté contre la rage des autres et contre la tienne. Porte cette lettre au père Bonaventure de Lodi, à notre couvent de Port-Oriental à Milan. Il fera pour toi l'office de père, te guidera, te procurera de l'ouvrage, jusqu'à ce que tu puisses revenir vivre ici sans rien craindre. Allez au bord du lac, près de l'embouchure du Bione. C'est un torrent à peu de distance de Pescarenico. Là, vous verrez un bateau en station. Vous direz « barque ». On vous demandera pourquoi. Répondez « Saint-François ». La barque vous recevra, vous transportera sur l'autre bord, où vous trouverez une carriole qui vous conduira directement jusqu'à... Celui qui demanderait comment frère Cristoforo avait aussi promptement à sa disposition des moyens de transport par eau et par terre, se montrerait peu au fait de ce qu'était le pouvoir d'un capucin tenu pour saint dans l'opinion publique. Il restait à penser à la garde des maisons. Le père en reçut les clés, se chargeant de les remettre à tel ou tel que Renzo et Agnese lui désignèrent. Cette dernière, en tirant la sienne de sa poche, poussa un grand soupir à l'idée que la maison était en ce moment ouverte, que le diable y avait été, et qui sait, se disait-elle, ce qu'il peut y avoir encore à garder. « Avant que vous partiez, dit le père, prions tous ensemble le Seigneur pour qu'il soit avec vous dans ce voyage comme toujours, et surtout pour qu'il vous donne la force, qu'il vous fasse chercher la douceur de vouloir ce qu'il a voulu. » En disant ces mots, il se mit à genoux au milieu de l'église, et tous en firent de même. Après qu'ils eussent prié quelques moments en silence, le père, à voix basse, mais distinctement, prononça ces paroles. « Nous vous prions aussi pour cet infortuné qui nous a mis dans cette situation. » Nous serions indignes de votre miséricorde si nous ne vous la demandions pas pour lui du fond de notre âme. Il en a tant besoin. Nous avons, nous autres, au milieu de nos tribulations, la consolation de penser que nous sommes dans la voie où vous nous avez mis. Nous pouvons vous offrir nos peines et elles deviennent pour nous un avantage. Mais lui, il est votre ennemi. Oh, qu'il est à plaindre! Il lutte contre vous. Ayez pitié de lui, Seigneur, touchez son cœur, rendez-le votre ami, accordez-lui tous les biens que nous pouvons désirer pour nous-mêmes. » S'étant ensuite levé comme à la hâte, il dit « Allons, mes enfants, il n'y a pas de temps à perdre. Que Dieu vous garde et que son ange vous accompagne. Partez !» Et pendant qu'il se mettait en marche, avec cette émotion qui ne trouve pas de parole et n'en a pas besoin pour se manifester, le père ajouta d'une voix altérée « Le cœur me dit que nous nous reverrons bientôt. » Certainement le cœur, pour qui l'écoute, a toujours quelque chose à dire sur ce qui sera. Mais que sait-il, le cœur? À peine quelque peu de ce qui fut. Sans attendre la réponse, frère Cristoforo alla dans la sacristie. Les voyageurs sortirent de l'église, et frère Fazio ferma la porte en leur disant adieu, ce qu'il fit lui-même d'une voix émue. Ils marchèrent sans bruit vers l'endroit de la rive qui leur avait été indiquée, y virent le bateau tout près, et l'échange du mot s'étant fait, ils y entrèrent. Le batelier, appuyant une rame contre le bord, s'en détacha. Puis, portant la main à l'autre aviron et ramant des deux bras, il prit le large vers la rive opposée. Nul souffle de vent ne se faisait sentir. Le lac était uni et calme. Il aurait semblé immobile sans le tremblement et la légère ondulation des reflets de la lune qui, du haut du ciel, et comme sur un vaste miroir, y reproduisent son image. On n'entendait que le flot sur la grève où il venait lent et mourant se briser, le murmure plus lointain de l'eau se rompant contre les piles du pont, et la chute réglée de ces deux rames qui fendaient la surface azurée du lac, d'un même coup en sortaient ruisselantes et s'y plongeaient encore. L'onde, divisée par la barque et se réunissant derrière la poupe, formait une trace ridée qui allait peu à peu s'éloignant du rivage. Les passagers, silencieux, la tête tournée en arrière, regardaient les montagnes et le pays, sur lequel la lune répandait une abondante clarté, traversée çà et là de grandes ombres. On distinguait les villages, les maisons, les chaumières. Le château de Don Rodrigo, avec sa tour plate, élevée au-dessus des maisonnettes groupées, au pied du promontoire, figurait comme un être féroce, qui, debout dans les ténèbres, au milieu d'êtres endormis, veillerait méditant un crime. Lucia le vit et frissonna. Elle suivit de ses regards les pentes du terrain jusqu'à son village et les fixa vers son extrémité. Elle aperçut sa petite maison. Elle aperçut le feuillage touffu du figuier qui dépassait le mur de la cour. Elle aperçut la fenêtre de sa chambre. Et posant le bras sur le bord de la barque au fond de laquelle elle était assise, elle baissa le front sur ce bras, comme pour dormir, et pleura secrètement. Adieu, montagnes sortant du fond des eaux et s'élevant jusqu'au ciel, cimes inégales, connues de celui qui a passé parmi vous le premier âge de sa vie, et non moins gravées dans son esprit que les traits de ses plus proches. Torrents dont il distingue le murmure comme le son des voix domestiques, champêtres habitations éparses et blanches sur le penchant du coteau, comme des troupeaux de brebis au pâturage. Adieu, qu'il est triste, le pas de celui qui a grandi parmi vous et qui vous laisse. Pour celui-là même qui, volontairement, s'éloigne de vous, poussé par l'espérance de faire fortune ailleurs, les rêves de richesse qui l'entraînent perdent en ce moment leur attrait. Charme qui l'avait séduit. Il s'étonne de la résolution qu'il a pu prendre. Il retournerait sur ses pas s'il ne pensait qu'il reviendra et reviendra riche un jour. À mesure qu'il avance dans la plaine, son œil se retire, dégoûté, lassé, de cette vaste uniformité qu'il y trouve. L'air lui semble pesant et mort. Il entre avec tristesse et distraction dans les villes bruyantes, ces maisons jointes à des maisons, ces rues aboutissant à des rues, lui semblent un obstacle à sa respiration. Et devant les édifices que l'étranger admire, il pense, avec un désir inquiet, au petit champ, à la petite maison de son pays, que, depuis longtemps, il convoite et qu'il achètera lorsqu'il reviendra nanti de fonds à ses montagnes. Mais que dire de celle qui n'avait jamais porté, au-delà de ces lieux mêmes, un désir fugitif, dont tous les projets d'avenir y étaient concentrés, et qui en est tout à coup jeté au loin par une force perverse. Que dire de ce qu'elle ressent, lorsque, tout à la fois arrachée à ses plus chères habitudes et à ses plus douces espérances, elle abandonne les montagnes qu'elle aime, pour aller chercher des personnes inconnues qu'elle n'a jamais désiré de connaître, et lorsqu'elle ne peut même entrevoir le moment fixé pour son retour. Adieu cette maison où elle est née, où, assise et occupée d'une pensée qui se cachait au fond de son âme, elle apprit à distinguer de tous les autres pas un pas attendu dans une mystérieuse crainte. Adieu cette maison encore étrangère, cette maison sur laquelle tant de fois, en passant, elle avait jeté un regard à la dérobée et non sans rougir, où son imagination se plaisait à se représenter le séjour tranquille et perpétuel d'une épouse. Adieu, cette église où son âme jouit tant de fois de sa sérénité, en chantant les louanges du Seigneur, où une cérémonie avait été promise et préparée, où le soupir secret du cœur devait être solennellement béni, l'amour être commandé et s'appeler saint. Adieu, celui qui vous donnait tant de charmes est partout, et il ne trouble jamais la joie de ses enfants que pour leur en préparer une plus grande et plus sûre. Telle était la nature des pensées, si ce n'était les pensées mêmes, de Lucia, peu différentes de celles des deux autres voyageurs, pendant que la barque les rapprochait de la rive droite de l'Adda.